intercéder, supplier la grâce de Dieu pour que ces âmes soient sauvées. Réunion pour les prédicateurs et les anciens le samedi 16 octobre. Je vous ai envoyé un mail, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Voilà, il y en a qui a reçu. À 10 heures. Si lui l'a reçu, les autres ont sans doute reçu. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est le pasteur Pierre qui nous parle du Seigneur. Nous le bénissons dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi signe si vous allez bien. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin à notre égard. Alléluia. Il pleut, ouais, vraiment il pleut et c'est pas tellement réjouissant. Merci Seigneur pour la pluie.
Alléluia.
Que son nom soit béni. Il pleut et ce matin nous allons parler quand même du désert. Du désert. Amen.
Amen.
Quand on parle du désert, qu'est-ce qu'on voit? Comment? On voit le soleil. Et quand il s'agit du désert chez le chrétien, quand il s'agit du désert, quand on passe par le désert, parfois on arrive à passer par le désert. Alléluia. On va parler d'Agar. D'Agar, servante de Saraï, qui a eu un enfant avec Abraham par la demande de Sarah. Nous allons faire lecture dans la parole de Dieu ce matin. Genèse chapitre 16. Saraï, femme d'Abraham, verset 1er, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à sa femme à Abraham, Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante, est en pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu. Dans ton affliction, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atahel Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de la Chaïroï, et il est entre Kadès et Barèd. Agar enfanta un fils, Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, lui enfanta, qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Coupons le fond et prions quelques instants, Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous honores par ta présence, notre Dieu, au milieu de nous. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu veux notre bien, tu veux nous conduire, tu veux nous diriger. Et nous te demandons humblement, Père, de prendre le plein contrôle de cette méditation et dispose nos cœurs à recevoir la semence que tu as pour nous ce matin. Que ton nom soit béni, tu bénis ton peuple, Seigneur, j'aimerais moi-même entre tes mains et fais-nous du bien dans ta grâce et dans ta miséricorde. Amen. Alors, le désert est là. Nous voyons bien dans notre lecture que Agar se trouve dans le désert et elle ne peut pas dire que c'est Dieu qui l'envoyait dans le désert. Parce que Dieu rencontre Agar, il pose la question, mais que fais-tu là? Où vas-tu, etc. Et ça peut arriver aussi dans notre vie chrétienne que nous soyons dans le désert, pas par la volonté de Dieu, mais par notre propre volonté. Par notre propre volonté. Vous savez que le désert fait partie intégrante dans la vie du chrétien. Tout chrétien doit s'attendre un jour ou l'autre de passer par le désert. Et si toi tu passes par le désert en cet instant même, je te souhaite un bon courage. Que Dieu te fortifie. Vous savez que nous ne passons pas toujours notre temps dans le désert. Il y a un temps pour tout, nous dit la parole de Dieu. Et là, nous voyons que Agar, ce n'est pas un jour de mots, s'est égaré en allant dans le désert. Nous savons que ce que c'est que le désert, c'est un lieu peu habité, peu fréquenté, une vaste région. Inhabité, le plus vaste désert du monde, c'est le Sahara, qui couvre plus de 8 millions de kilomètres carrés. C'est effrayant. Hein? Quand on parle de désert, on voit tout de suite du sable, de la chaleur, du vent, des dunes, de sable. Un soleil torride qui frappe des carcasses d'animaux sur le sable brûlant. Et de temps en temps, un scorpion qui court à toutes pattes. C'est pas un beau tableau. Hein. Le désert est le test grandeur nature pour nous et on est ensemble ce matin pour nous éprouver. C'est pour nous éprouver. Nul n'est exclu à ce passage obligatoire. L'exemple suprême, c'est celui de notre Sauveur et Maître, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au début de son ministère, la Bible nous enseigne dans les évangiles que Jésus fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert, dans le désert où il fut tenté par le diable. Nous trouvons ces récits dans Matthieu, chapitre 4, et Luc aussi, chapitre 4. Et Jésus a triomphé en utilisant la parole de Dieu face à l'ennemi de nos âmes. Quel exemple pour nous! Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les... Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et l'exemple est suprême, c'est Jésus-Christ qui nous donne cet exemple-là. Nous allons voir dans Osée, au chapitre 2, le verset 16, pourquoi Osée, dans les petits prophètes, ce sont des livres que nous ne lisons pas souvent, mais qui sont là pour notre instruction, pour notre formation. Osée chapitre 2 et le verset 16, il nous dit, c'est pourquoi, voici, j'entends encore des pages qui tournent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore sur Osée. Osée se trouve après Daniel, allez voir Daniel, il n'est pas dans la fosse aux lions. Daniel, il n'est pas dans... Alors, Osée, après, Daniel c'est Osée. Alors, verset 16 nous dit, c'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Mais ce que je voulais refaire... faire sortir de là, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Pourquoi Dieu choisit le désert pour parler à notre cœur? Quand Dieu a un travail profond à faire en nous, c'est dans le désert qu'il nous conduit pour parler à notre cœur comme il en a fait pour le peuple d'Israël. Un endroit où l'on pourra bien entendre la voix du bon berger, parce que dans le désert, il y a très peu de bruit. Hein. Il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas de bruit de casserole, il n'y a pas de bruit de fourchette, etc. C'est un endroit, il y a un calme. Donc, Dieu peut nous parler et ne pourra pas dire, on n'avait pas entendu. Alors, nous allons voir 6 pistes du désert. Pourquoi le désert est incontournable, indispensable pour nos vies? Alors, il y a 6 pistes. La première piste que nous allons voir, c'est quand l'enfant de Dieu qui accepte de passer par le désert, là où Dieu veut le conduire, eh bien, quand on entre dans le désert, on a une espérance. Amen. Vous savez, rentrer dans le désert, il n'y a pas de date de sortie. Mais nous savons, quand nous sommes dans le désert, nous devons espérer. Amen. C'est Dieu qui nous conduit, il nous fera aussi sortir. Donc, c'est cette espérance-là qui te donne la force d'accepter le désert. Regardons dans Romains, l'espérance est la disposition de l'âme qui porte à attendre un bien désiré. Regardez dans Romains chapitre 3, on va faire quelques lectures. Romains 5, vous savez que la Bible s'explique d'elle-même. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, quoi, produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous savez, mes bien-aimés, nous affrontons des difficultés qui nous forceront à grandir. Ce sont des marches, vous voyez, c'est comme ça, ce sont des marches à chaque fois. À chaque marche, ça nous élève. Amen. Quand nous allons dans le bon sens. Notre joie dans la souffrance vient non pas du fait que nous l'aimons ou que nous nions son caractère tragique, mais de la conviction que Dieu utilise les difficultés de la vie et les attaques de Satan pour façonner, en quelque sorte, notre personnalité. Les problèmes que nous rencontrons développent notre persévérance, ce qui a pour effet de fortifier notre caractère, d'approfondir notre confiance en Dieu et de nous inspirer une assurance plus grande envers l'avenir. Donc, remercions Dieu les occasions de grandir et affrontons l'épreuve avec force. Amen. Courage, avec force et courage. Sachant que Dieu sait où il nous emmène. Parfois, nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas l'issue du désert, de l'épreuve. Mais Dieu sait. Et le plus important, ce n'est pas que nous sachions que Dieu sait. Amen. Parfois, nous voulons voir les choses tout de suite, comme un tapis. Non. C'est un pas à la fois avec Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est un pas à la fois avec Dieu. Un pas à la fois. Amen. Que son nom soit béni. Jacques nous parle d'épreuves. Regardons dans Jacques, chapitre 1, les versets 2 et 4. Jacques, chapitre 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis en toute bonne œuvre. Dans 1 Pierre 1, 6 et 7, et c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, quand nous entrons dans le désert avec tout cela, cette espérance-là, nous avons la force. Nous sommes fortifiés parce que nous savons que c'est Dieu qui est à l'origine de nos épreuves. C'est lui qui nous conduit. Donc, nous devons tout simplement lui faire totalement confiance. Amen. L'espérance, toujours espérer. Amen. Des jours meilleurs viendront pour nous fortifier. Donc, rentrer au désert avec cette espérance. Le désert fait quelque chose qui est bon pour nous. Le désert nous dépouille. Le désert nous dépouille. Mais oui, dépouiller, ça veut dire écorcher, dégarnir, priver, déposséder. C'est une manière que Dieu utilise pour notre sanctification, le dépouillement. Notre ancienne manière de vivre appartient tout entière au passé. Éphésiens chapitre 4, versets 20 et 24. On peut lire Éphésiens 4, je ne l'ai pas noté. Éphésiens chapitre 4. J'ai des 20 à 24. Éphésiens chapitre 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et il dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges, etc. Ça, c'est le dépouillement qui nous mène de victoire en victoire. Notre ancienne manière de vivre appartient tout entière au passé. Nous devrions nous débarrasser comme de vieux habits lorsque nous décidons d'accepter le don du salut en Christ. C'est à la fois une décision unique et un engagement renouvelé quotidiennement. Il nous faut résister à nos désirs et à nos impulsions et nous revêtir au contraire de la nouvelle nature, prendre une nouvelle direction. Vous savez, quand j'ai fait mon service militaire, je suis arrivé à la caserne, la première des choses que j'ai à faire avec eux dans la caserne, c'est d'enlever tout ce qui est civil, de mettre ça dans un coin. C'est le dépouillement total. Tout ce que tu es venu avec, vous mettez ça dans un coin et vous remettez des habits. Amen. Des habits de soldat, des habits de militaire. Et ça ne nous plaît pas du tout. Hein. Vous savez, quand vous venez de la vie civile et qu'on rentre à la caserne, ce n'est pas du tout agréable. Mais il faut passer par là. C'est du bien. Amen. Il faut passer par là. Ça fait du bien. La vie chrétienne, c'est pareil. Hein. Nous venons à Christ avec nos pensées, avec nos habitudes. Et quand nous sommes devant la parole de Dieu, elle nous enseigne comment nous devons nous dépouiller. Amen. Comment nous devons parler, comment nous devons agir, comment nous devons marcher. Amen. Il y a un ordre dans l'Église. Alors, c'est le dépouillement. Et il faut accepter. Il faut accepter. On est obligé d'accepter le dépouillement. Amen. C'est pas facile. Hein? Dépouiller. De la mentalité, dépouillé de sa façon d'être, de penser, et revêtir tout cela, revêtir Jésus-Christ. Après le dépouillement, nous avons l'enseignement. Passer par le désert nous enseigne. Nous enseigne. Enseigner, c'est faire connaître. Donner instruction, expliquer, apprendre. Le psaume 25, et les versets 4 et 5, il nous dit, ne cherchez pas. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Alléluia. Pour être guidé comme le psalmiste par l'Éternel qui en fait la demande, nous devons avoir envie mais aussi prendre conscience que ces directives principales se trouvent dans sa parole. Amen. Vous savez que Dieu ne nous a rien caché. Il nous a tout donné. Et quand nous prenons sa parole, nous avons tout là-dedans. Tout ce qu'il nous faut. Amen. C'est le code de la vie. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Mes bien-aimés, Jésus-Christ dit que la parole qu'il a dit est esprit et vie. Alors, en négligeant la parole de Dieu, on devient rachitif. Mais oui, En lisant la parole de Dieu, on se fait du bien. C'est la santé pour nos muscles, un rafraîchissement pour nos os. Alléluia. Donc, méditons la parole, prenons du temps et surtout fixons des heures pour la lire. Pour être guidé comme le psalmiste par l'Éternel qui en fait la demande, nous devons avoir envie, mais aussi prendre conscience que cette directive principale se trouve dans sa parole. En la lisant régulièrement et en nous laissant instruire par elle, nous acquérons de la sagesse nécessaire pour discerner l'orientation que le Seigneur nous veut nous donner. Nous sommes souvent tentés de demander des réponses directives. David nous demande à être guidé et enseigné lorsque nous recherchons Dieu, étudions sa parole et obéissons à ses commandements. Nous nous mettrons dans les dispositions nécessaires pour bénéficier de sa conduite. C'est très important, l'enseignement. Il nous enseigne-moi et fais-moi connaître. Enseigne-moi tes voies et fais-moi connaître tes voies. David avait compris cela. David, c'était un homme de la parole de Dieu. Et nous savons comment le Seigneur conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. C'est dans le psaume 27 qu'on retrouve cela. Et puis, tout en nous enseignant, eh bien, vous savez que la sanctification, c'est un processus en continu. C'est-à-dire qu'on n'est pas sanctifié, pas non. Nous devons nous sanctifier. Alors, c'est la mise à part. La sanctification, c'est la mise à part. Pour un usage sacré. Le plus souvent, Dieu disait à son peuple, sanctifiez-vous car demain, etc. Vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu. Sanctifiez le peuple car demain, je me présenterai. L'Éternel qui parlait comme ça à Moïse. Sanctifiez-vous. Et nous devons vivre dans la sanctification, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Il faut vivre dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Achevons notre sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et comme nous voulons voir notre Dieu, que faisons-nous? Eh bien, nous cherchons à nous sanctifier. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans la sanctification. C'est très important. Très, très important. Vous savez que la sanctification est un processus qui fait partie intégrante de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit agit en nous et nous rend semblables à l'image de Christ. Amen. Et c'est ce que nous tendons à être comme notre maître, notre divin modèle, Jésus-Christ. Le désert a quelque chose à faire encore, c'est une piste. Le désert nous transforme. Alléluia. Le désert nous transforme. Transformer, c'est faire changer de forme. Faire changer de forme. Dieu a pour nous, ses enfants, des plans, des bons plans, agréables et parfaits. Si nous lisons le Romains chapitre 12, les deux premiers versets, Romains 12, vous connaissez bien ce verset. Romains 12, 1 et 2. C'est l'apôtre Paul qui exhorte les communs. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. saint, agréable à Dieu. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Je l'ai déjà dit, je le répète. Vous savez, enseigner, c'est répéter. Vous savez, le chapitre 12, je l'ai déjà dit, je suis sûr, parce que c'est quelque chose que j'aime. Le chapitre 12 de Romains, c'est très, très riche en enseignement. Très, très riche en enseignement. Et la façon dont c'est écrit, je dis gloire, il n'y a que Dieu seul qui peut faire des choses. Il n'y a que Dieu seul. Paul est conduit, dirigé par le Saint-Esprit, on voit ça. On voit que c'est pas, il n'y a pas de désordre. Il y a de l'ordre quand Dieu fait quelque chose. Quand vous lisez les deux premiers versets de ce chapitre 12, et quand vous lisez la suite, vous allez remarquer que vous ne pouvez pas vivre le reste si vous n'avez pas vécu les deux premiers versets. Impossible. Impossible. Faites l'expérience. Mettez ça en cette semaine en application. Prenez le chapitre 12 de Romains et mettez ce chapitre-là en application. Que Dieu vous bénisse. Eh oui, eh bien, le désert, c'est ça, le désert, c'est la transformation. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça fait plus de 2000 ans qu'il a écrit ça, l'apôtre Paul. Il disait déjà à cette époque-là, ne vous conformez pas au siècle présent. Et qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? On peut dire autre chose? Non, on peut dire la même chose. Amen. Surtout dans notre époque. Faites très attention, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment on peut être transformé? Parce qu'il faut s'offrir en sacrifice. Il faut s'offrir à Dieu. Sinon, voilà mon être entier. Voilà, me voici, Seigneur. Mes pensées, mon esprit, mon corps. Tout ce qui m'appartient, Seigneur, t'appartient. Amen. Parce que nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes, comme dit ce cantique. Alors, soyons transformés par renouvellement dans l'intelligence afin que nous puissions afin que vous discerniez que là, c'est dans le désert. Ce verset-là, quand on est dans le désert, il est applicable. Amen. Pour la transformation, ça, c'est important. Il faut passer par là. Amen. Transformé par la renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, ce qui est bon, agréable et parfait, ça nous montre en quelque sorte le temple. Vous savez que le temple, il y a le parvis. Il y a le saint et le lieu très saint. Ce qui est bon, c'est dans le parvis. Ce qui est agréable, se trouve dans le lieu saint. Et ce qui est parfait, se trouve dans le lieu très saint. Et nous devons apprendre à vivre en fuyant tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. Demandons à Dieu, crions à Dieu, demandons-lui ce qui est conforme à sa parole. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Parfois, nous ne savons pas. Il y a tellement de choses. Parfois, on se laisse prendre pas ces choses-là, mais soyons, ne nous conformons pas. Et nous avons le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit approuve quelque chose, il se manifeste, et quand il désapprouve aussi, il se manifeste aussi. Le Saint-Esprit est une personne. Est une personne, donc nous devons faire très attention à cela. Donc, restons dans la pensée de Dieu. Dieu a pour ses enfants des bons plans, agréables et parfaits. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous vivions pour l'honorer et lui obéir, puisqu'il désire le meilleur pour nous, comme nous aussi nous désirons le meilleur pour nos enfants. Amen. Les parents désirent le meilleur pour leurs enfants. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Oh là là. C'est de bénir les enfants. Que Dieu soit béni, puisqu'il désire le meilleur pour nous et qu'il a donné son Fils pour générer en nous la vie nouvelle, nous devrions joyeusement nous placer à son service comme des sacrifices vivants. Me voici, Seigneur. Vous savez, on dit le plus souvent que monter sur l'autel, se présenter, se mettre sur l'autel, c'est très difficile. Hein? S'offrir en sacrifice, c'est plus difficile, mais redescendre, il n'y a pas de souci. C'est monter et rester. Monter et rester. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Nous, chrétiens, nous sommes avertis de ne pas imiter le comportement et les modes de ce monde qui sont généralement égoïstes et exercent le plus souvent une mauvaise influence. Nous sommes avisés à ne pas nous laisser séduire. Donc, veillons à la séduction. Éloignons-nous de toute séduction, restant attachés à la parole de Dieu. Et il y a quelque chose encore que le désert nous fait. Vous savez, quand Jésus-Christ est entré dans le désert, après son baptême, la Bible nous dit que Jésus, rempli de cet esprit, fut conduit au désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Mais à la sortie du désert, la Bible va changer. Jésus-Christ, revêtu de l'esprit, quand il est rentré, il était rempli. Vous savez, quand on est rempli, c'est formidable. Déjà rempli, c'est bien. Mais quand il est sorti, il était revêtu de l'esprit. Amen. La tâche qui attend le Seigneur, il faut avoir cette plénitude de l'esprit pour pouvoir affronter ce qu'il avait à affronter pour chacun d'entre nous. Amen. Non pour lui-même, mais pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas été vain. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il parle pour nous, le sacrifice nous garde, nous protège. Et nous ne devons pas en aucun cas fouler le sacrifice de Jésus-Christ aux pieds. Amen. Nous devons avoir de la reconnaissance à notre Dieu. Amen. Donc, le désert nous revêt de puissance. Vous savez, quand vous sortez, vous avez vu quelqu'un qui a déjà été éprouvé, mais vraiment éprouvé, un enfant de Dieu. Vous avez vu ça. À la fin de l'épreuve, le chrétien est métamorphosé, transformé après cette épreuve-là. Amen. C'est pour cette raison que je vous encourage d'accepter le désert. Amen. Selon Dieu, hein? Le désert, selon Dieu. Pas le désert que nous engageons à partir dans le désert, comme si Dieu, non, Agar s'est égaré. Elle fuyait Sarai. Il est parti au désert. Dieu est miséricordieux. Dieu la rencontre. Dieu lui demande, mais que fais-tu là, gars? Mais tu t'es égaré. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas écrit. Je fuis Sarai. On ne peut pas fuir. Dieu, il est tellement sage. Dieu voulait dire à Agar, bon, j'ai vu que tu, effectivement, elle est hostile à ton égard. Tu fais bien d'autres. Non. Parfois, quand on se met soi-même dans le désert, quand Dieu nous rencontre, Dieu nous dit de retourner. Souvent, la vie spirituelle est bloquée. Elle est bloquée, on se pose beaucoup de questions. C'est parce qu'on s'est mis dans une situation que Dieu n'approuve pas du tout. Et pour sortir de cette situation, il faut retourner au point de départ. Là on a bifurqué. Tant qu'on ne revient pas à ce point de départ-là, eh bien, la vie spirituelle sera bloquée. Elle pourrait rester là longtemps à gare. Mais Dieu lui dit, non, tu retournes au point de départ. Hein, tu vas t'humilier devant Sarai, même si elle te maltraite, mais c'est ta maîtresse. Vous voyez comment Dieu est juste. C'est ta maîtresse, tu vas t'humilier et je te bénirai. Et Dieu l'a béni. Comme il avait promis, Dieu a béni. Dieu tient à ses paroles. Que son nom soit béni. Est-ce que vous allez accepter maintenant le désert? À votre manière de dire amen n'est pas convaincante. Hein? Vous allez accepter le désert avec joie. Et en comptant bien sûr sur le Seigneur, en prenant ces pistes-là, le dépouillement, l'espérance, la sanctification, l'enseignement, le revêtement et la transformation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. On peut se lever dans sa présence. Béni soit l'Éternel. On peut se lever. Levons-nous devant la face du Seigneur. Il est grand par son conseil divin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Que son nom soit sanctifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Père bien-aimé, nous te remercions et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier, Seigneur, tu as dit que ta parole est esprit et vie. Et donne-nous, mon Dieu, mon Père, à nous attarder, Seigneur, sur ta parole, à prendre du temps, Seigneur, mon Dieu, pour la méditer, à prendre